Paul Féval, Les habits noirs, sixième partie, Maman Léo, chapitre premier, théâtre universel et national, choix d'un tire-l'œil, l'affaire Remy Darx, d'où Maman Léo sortait. Paris avait son manteau d'hiver. Les toits blancs éclataient sous le ciel brumeux, tandis que dans la rue, piétons et voitures écrasaient la neige grisâtre. C'était un des premiers jours de novembre, en 1838, un mois après la catastrophe qui termine notre récit, intitulé « L'arme invisible ». La mort étrange du juge d'instruction Remy Darx avait jeté un étonnement dans la ville. Mais à Paris, les étonnements durent peu, et la ville pensait déjà à autre chose. Ce temps est si près de nous qu'on a hésité en vérité à dire qu'il ne ressemblait pas tout à fait au temps présent, et pourtant il est bien certain que les changements opérés dans Paris par ces 30 dernières années valent pour le moins l'œuvre d'un siècle. La publicité des journaux existait, on la trouvait même énorme, presque scandaleuse. Elle n'était rien absolument auprès de ce qu'elle est aujourd'hui. On peut affirmer sans crainte de se tromper que nous avons, en 1869, 100 carrés de papier imprimés quotidiennement contre 10 publiés en 1838. Ainsi en est-il pour le mouvement prodigieux des démolitions et des constructions. Sous le règne de Louis-Philippe, Paris tout entier s'irritait ou se réjouissait, selon les goûts de chacun, à la vue de cette humble percée, la rue de Rambuteau, et qui passerait maintenant inaperçue. Les uns s'extasiaient sur la hardiesse de cette œuvre municipale, les autres prophétisaient la banqueroute prochaine de la ville. C'était la grande bataille d'aujourd'hui, qui commençait par une toute petite escarmouche. Je ne sais pas au juste combien d'années ont mis à parfaire cette malheureuse rue de Rambuteau, qui devait être droite et qui eut un coude célèbre dans les annales judiciaires, mais cela dura terriblement longtemps, et pendant plusieurs hivers, l'espace compris entre l'église Saint-Eustache et le Marais fut complètement impraticable. On n'allait pas vite alors en fait de bâtisses. Ceux qui ont le tort et le chagrin d'être assez vieux pour avoir vu ces choses peuvent se rappeler 4 ou 5 baraques de saltimbanques établies à demeure dans un grand terrain vers l'endroit où la rue Quincampoix coupe la rue de Rambuteau et qui formèrent là pendant 2 ans au moins et peut-être plus une petite foire permanente. Le matin du 5 novembre 1838, par le temps noir et froid qu'il faisait, on achevait la construction de la plus grande de ces baraques, située en avant des autres et qui avait sa façade tournée vers le chemin boueux conduisant à la rue Saint-Denis. Les gens du quartier qui allaient à leurs affaires ne donnaient pas beaucoup d'attention à l'érection de ce monument, mais 3 ou 4 gamins, renonçant aux billes pour réchauffer leurs mains dans leurs poches, rôdaient au-devant du perron en planches qui montait à la galerie et s'entretenaient avec intérêt de l'ouverture prochaine du grand théâtre universel et national dirigé par Madame Samaillou, première dompteuse des capitales d'Europe. On parlait surtout de son lion, qui était arrivé la veille dans une caisse énorme percée de petits trous et qui avait rugi pendant qu'on le déballait. La porte de la baraque était bien entendu fermée pour cause d'installation et d'aménagements intérieurs. Un large criteau disait même sur la devanture « Le public n'entre pas ici ». Mais, comme nous avons l'honneur d'être parmi les amis de la célèbre dompteuse, nous prendrons la liberté de soulever le lambeau de toile goudronné qui servait de portière, et nous entrerons chez elle sans façon. C'était un carré long, très vaste, et qu'on achevait de couvrir en clouant les planches de la toiture. Il n'y avait point encore de banquette dans la salle, mais le théâtre était déjà installé en partie, et des ouvriers, juchés tout en haut de leurs échelles, peignaient les frises et le manteau d'arlequin. D'autres barbouilleurs s'occupaient du rideau étendu sur le plancher même de la scène. Au centre de la salle, un poêle de fonte ronflait, chauffé au rouge. Auprès du poêle, une petite table supportait 3 ou 4 verres, des chopes et un album de dimension assez volumineuse, dont la couverture en carton était abondamment souillée. L'un des verres restait plein, les deux autres, à moitié bu, appartenaient à Madame Veuve Samaillou, maîtresse de séant, et à un homme de haute taille, portant la moustache en brosse et la redingote boutonnée jusqu'au menton, et qui se nommait Monsieur Gondrequin. Le troisième verre, qui était plein, attendait Monsieur Baruch, collègue de Monsieur Gondrequin, qui travaillait en ce moment au haut de l'échelle. Monsieur Gondrequin et Monsieur Baruch étaient deux artistes peintres bien connus, on pourrait même dire célèbres, parmi les directeurs des théâtres forains. Ils appartenaient au fameux atelier Cœur d'acier, d'où sont sortis presque tous les chefs-d'œuvre destinés à tirer l'œil au-devant des baraques de la foire. Monsieur Baruch, petit homme de 50 ans, maigre, sec et froid, abattait la besogne. Son surnom d'atelier était Rude au poil. Monsieur Gondrequin, dit militaire, quoiqu'il n'eût jamais servi, à cause de sa tournure et de ses prédilections pour les choses martiales, donnait le coup du maître au tableau, le fion, et se chargeait surtout d'embêter la pratique. Il mettait son foulard en coton rouge dans la poche du côté de sa redingote et en laissait passer un petit bout de sa boutonnière par mégarde, ce qui le décorait de la Légion d'honneur. Il avait du brillant et de l'agrément dans l'esprit, malgré sa manie de jouer à l'ancien sous-officier, et se vantait volontiers d'avoir attiré bien des kilomètres de commandes à l'atelier par la rondeur aimable de son caractère. Il disait volontiers de lui-même « Un vrai troupier, quoi, solide mais séduisant, honneur et gaieté, raflage ou feu, venez, boum !» En ce moment, il venait d'ouvrir l'album graisseux et montrait à Madame Samaillou, dont la bonne grosse figure avait une expression de mélancolie, des sujets de tableaux à choisir pour orner le devant de son théâtre. Dans tout le reste de la baraque, c'était une activité confuse et singulièrement bruyante. On faisait tout à la fois. Les principaux sujets de la troupe, transformés en tapissiers, clouaient des guenilles autour des murailles ou disposaient en faisceaux des gerbes d'étendards non conquis sur l'étranger. Jupiter dit Fleur de Lys, jeune nègre qui avait été fils de roi dans son pays et décrotteur auprès de la porte Saint-Martin, exerçait un talent naissant qu'il avait sur le tambour. Mademoiselle Colombe cassait les reins de sa petite sœur et lui désossait proprement les rotules. L'enfant avait de l'avenir. Elle pouvait rester déjà 3 minutes la tête contrepassée en arrière entre ses deux jambes et jouer ainsi un petit air de trompette. Pendant la fanfare, Mademoiselle Colombe essayait quelques coups de sabre avec un pauvre diable à laideur prétentieuse que coiffait un chapeau gris planté de côté sur ses cheveux jaunes et plats. Celui-là se tenait assez bien sous les armes. Quand Mademoiselle Colombe reprenait sa petite sœur, il allait à deux grosses filles rougeaudes qui déjeunaient avec deux énormes tranches de pain beurrées de résinée et leur donnait des leçons de danse américaine. Et plus tard, disait-il aux deux rougeaudes qui suivaient ses indications avec une paresse maussade, « Quand le succès vous aura récompensé de vos efforts, vous pourrez vous vanter d'avoir eu les leçons d'un jeune homme qui en possède tous les brevets de pointe, contrepointe, entrechat, respect aux dames, honneur et patrie, et vous pourrez passer partout, rien qu'en disant « Nous sommes les élèves du seul Amédée Similor ». Le lecteur se souvient peut-être des deux postulants qui s'était présenté à Léocadie Samaillou dans son ancienne baraque de la place Valhubert le soir même de l'arrivée de Maurice Pagès revenant d'Afrique. Léocadie, tout entière à la joie de revoir son lieutenant, avait renvoyé les deux candidats avec l'enfant que le pauvre échalot portait dans sa gibecière, mais l'offre de ce brave garçon, consentant à jouer le rôle de phoque pour nourrir son petit, avait touché le cœur sensible de la dompteuse. Au moment de se lancer dans les grandes affaires et de monter une mécanique comme on n'en avait jamais vu en foire, Léocadie, qui se réfugiait dans l'ambition pour fuir ses peines de cœur, s'était souvenu de ses protégés. La famille entière, composée des deux pères et de l'enfant, était engagée, et nous n'avons vu encore qu'une faible portion des services qu'on attendait de Similor, artiste à tout faire. Quant à Échalot, malgré sa modestie, ses talents s'étaient affirmés déjà. En sa qualité d'ancien apothicaire, il avait entrepris à forfait la guérison du lion rhumatisement et podagre, qui arrivait non point de Londres, mais de l'infirmerie des chiens à Clignancourt. Le lion était comme tout le monde, il n'avait plus de cage, une simple ficelle attachait sa vieillesse caduque à un clou fiché dans les planches. Il avait dû être magnifique autrefois, ce seigneur des déserts africains, c'était un mâle de la plus grande taille, mais on aurait pu le prendre maintenant pour un monstrueux amas d'étoupes jeté pêle-mêle sur un lit de paille. Il n'avait plus forme animale et végétait misérablement dans la paresse de son agonie. Échalot lui avait pourtant mis 2 ou 3 vésicatoires qu'il soignait selon toutes les règles de l'art et dont il favorisait l'effet par des sinapismes convenablement appliqués. À portée du noble malade, il y avait un baquet plein de tisane. Loin de se borner à ses attentions, Échalot avait fabriqué un vaste bonnet de nuit dont il coiffait la tête de son lion pour le protéger contre les fraîcheurs nocturnes et lui mettait du coton dans les oreilles. Mais comme en définitive l'établissement de Madame Samaillou n'était pas un hôpital, Échalot préparait son lion pour l'heure prochaine où il devait être offert en spectacle à la curiosité des Parisiens. À l'insu de Madame Samaillou, et pour faire une surprise à cette excellente patronne, il modelait en secret, avec du mastic, une mâchoire formidable, destinée à remplacer les dents que le lion avait perdues. Il s'était procuré aussi plusieurs queues de vache, à l'aide desquelles il espérait bien boucher adroitement les plaques chauves que l'âge avait faites dans la crinière de son lion. Ah, c'était un garçon utile, et la générosité de la dompteuse à son égard devait être bien récompensée. Depuis une semaine qu'il faisait partie de la maison, il avait déjà reprisé presque toutes les chaussettes de sa patronne et remis un bec à l'autruche. En outre, par un procédé dont il était l'inventeur, il espérait enfler la tête du jeune Saladin, son nourrisson, sans lui faire le moindre mal, et donner à ce cher enfant une apparence si monstrueuse que la vue seule en vaudrait 10 centimes. 2 sous. « J'ai besoin de faire travailler mon imagination, » disait cependant Madame Samaillou, causant avec Gondrequin militaire. « Ça me désennuie de mes souvenirs et de mes regrets. Quoi, vous ne pouvez pas dire que ces 2 enfants-là, Maurice et Fleurette, se sont bien conduits à mon égard. » « Fixe, » répliqua Gondrequin, les yeux à 15 pas devant soi, qui signifie « immobile ». Je n'ai pas été officier, mais j'en ai la bonne humeur guerrière. Pour l'ingratitude, elle est dans la nature, et quand je vous vis à l'occasion de votre dernier tableau, que le blanc bec était alors chez vous pour le trapèze et la perche, vous soupiriez déjà gros au vis-à-vis de lui, dans une voix qui ressemblait à Madame Putifard, rafla. C'est le fruit de la calomnie, répondit Madame Samaillou, en levant les yeux au ciel. Je ne dis pas que mon âme a été incapable d'un rêve, mais Maurice n'y a jamais obtempéré, et je suis resté pur avec lui comme la fleur d'orange. Et quand je pense que voilà plus d'un mois sans avoir entendu parler de lui, ni de Fleurette, l'adresse qu'il m'avait donnée m'a sorti de la tête. La petite, qui est une demoiselle, comme vous savez, m'avait bien défendu d'aller la demander chez sa marquise ou duchesse, en sorte que tout ce que j'ai pu faire, ça a été d'écrire, mais on ne m'a pas répondu. S'est-il passé quelque chose pendant que j'étais à la fête des loges? Je n'ai entendu parler de rien, et depuis mon retour, ma grande affaire avec la ville me casse la tête. Ah, on a bien tort de s'attacher. « Pas accélérer !» interrompit Gondrequin. « Marche ! Attaquons le tableau de front et sur les 2 flancs pour vous tirer de vos idées noires. Nous disons donc qu'il y aura 9 compartiments, 3 sur 3, avec 8 médaillons ménagés, 4 dans les coins et 4 dans les échancrures du milieu, selon l'idée de Monsieur Baruch, qui ne vaut rien pour tirer l'œil, mais qui vous dispose un ensemble à la papa, personne ne peut dire le contraire. » Qu'est-ce qu'il vous faut pour le compartiment du milieu? Voulez-vous l'explosion de la machine infernale du boulevard du crime? Affaire Fieschi et Nina Lassave, dont voici le diminutif au numéro 1 du livre d'échantillons? Regardez voir, la contemplation n'en coûte rien. Droite-gauche, marquez le pas! Léocadie se pencha sur l'album, et pendant le silence qui eut lieu, on put entendre la voix de M. Baruch disant dans les frises « Ah, c'est des affaires qu'on y touche avec soin, parce qu'il y a là-dedans des riches et des nobles, mais il n'en est pas moins vrai que le juge d'instruction a été empoisonné comme un rat, rue d'Anjou-Saint-Honoré, ni vu ni connu, et qu'on a arrêté le jeune homme avec la demoiselle en flagrant délit d'arsenic. » Madame Samaillou ne prêtait point attention à ce qui se disait autour d'elle. Son bon gros visage, ordinairement si joyeux, exprimait un véritable chagrin. « Ça doit faire un crâne effet, dit-elle, en regardant la première page de l'album d'échantillons où se trouvait un croquis représentant l'explosion de la machine infernale du boulevard du Temple. C'était alors un événement tout récent, et l'attentat de Fieschi restait dans tous les souvenirs. « Quant à l'effet, répondit Gondrequin, j'en signe mon billet. C'est chargé à mitraille des tire-l'œil comme ça, et on pourrait tout de même vous l'arranger à bon compte. » Un profond soupir gonfla la vaste poitrine de la veuve. « Le prix ne fait pas grand-chose, répliqua-t-elle. J'en ai dépensé de l'argent dans mes négociations avec la ville pour mon terrain et le droit de bâtir ici une baraque à demeure. Dans les temps, quand j'avais Maurice et Fleurette, la peinture était du superflu. La bonne société se donnait rendez-vous chez moi, n'importe où, à Paris ou dans la banlieue, malgré mon tableau, qui était du temps du feu Samaillou, et qui m'avait coûté 40 francs d'occasion. Il n'y a pas à dire. De s'attacher, c'est des bêtises. Je ne leur demandais pas d'être toujours fourré à la baraque à ces deux enfants-là, pas vrai, mais une petite visite par-ci, par-là, d'amitié. « En 12 temps la charge !» interrompit Gondrequin. « Quoiqu'on peut la précipiter en 4 mouvements. Il y en a bien qui ont été au régiment et qui ne gardent pas l'air si troupier que moi. Ah bah la mélancolie! Si vous ne craignez pas la dépense, on peut vous faire des choses extraordinaires qui ne s'est jamais vues dans la capitale. » « C'est mon idée, murmura la dompteuse, qui détourna la tête pour essuyer une larme. « J'ai déjà bien commencé, allez, et mon Saint-Fruscrin va vite, mais il faut que tout soit à cuire et à bouillir ici. Je veux faire des folies et prodigalités, quoi, pour m'étourdir le cœur. Il n'y a rien de trop beau pour moi, je veux être la première des premières. Alors, s'écria Gondrequin militaire avec enthousiasme, ce n'est pas encore assez flambant. Il manque du monde là-dedans. Je vais y remettre des gardes municipaux et des généraux, avec un tire-l'œil spécial exécuté par moi-même, là, sur le devant, premier plan. L'idée me monte au cerveau que j'ai envie d'éternuer. Un jeune gamin de Paris qui a trouvé la mort dans la circonstance et s'est coupé en deux par l'explosion, que ses parents ramassent les morceaux de lui en pleurant, savoir le papa les jambes et la maman le reste, entouré par la foule. « Sacré Dieu !» dit maman Sayadou en s'animant un peu. « Voilà une idée gentille, par exemple. » Ce qui me chiffonne, c'est que je n'aurai pas de machine infernale à montrer à l'intérieur. On ne peut pas tout avoir, maman, reprit Gondrequin. Droite, gauche, à un autre. Il tourna à la seconde page de l'album. Va de l'avant au rideau, ordonnait en ce moment M. Baruch de sa position élevée, et remets du safran dans de l'eau. L'or est trop rouge là-bas, à droite. Et peluche! Dans l'audience, reprit un des barbouilleurs, qui en était toujours à l'histoire d'assassinat, on dit que le juge d'instruction a eu le temps de faire son testament avant de mourir. Un autre ajouta, le lieutenant d'Afrique a essayé de se tuer. Un autre encore, la demoiselle est folle. Oh, bouchez vos becs généralement partout, commanda Gondrequin militaire, on ne s'entend pas. « Ah, ça ?» demanda de loin mademoiselle Colombe, qui remettait sa petite sœur en cerceau. « Elle ne finira donc jamais cette histoire-là qu'on la radote dans tous les coins de Paris ?» S'il y eut une réponse, mademoiselle Colombe ne l'entendit pas, car la petite sœur venait d'emboucher sa trompette et la terrible fanfare éclata entre ses jambes. Quand le silence se fit, on put ouïr la voix douce et patiente des chalots qui disait « Sois pas méchant, Saladin, petite drogue, c'est pour ton bien, et on ne peut pas éduquer un enfant sans qu'il y ait un peu de misère dans son bas âge. » Saladin, l'héritier indivis du brillant similor et du modeste échalot, criait comme un beau diable. Ce qu'on appelait son éducation était, en définitive, une assez rude chose. Échalot l'accommodait en monstre, et, à l'aide d'une baudruche collée d'une certaine façon autour de ses tempes, et puis peinte en couleur de chair et munie de petits cheveux, puis encore soufflée à l'aide d'un tuyau de plumes, il donnait à la tête de l'enfant d'effrayantes proportions. « Te douillet, reprenait le père nourricier sans se fâcher. « Que dirais-tu si on t'arrachait une dent au pistolet ? Il n'y a pas pour attirer le monde comme les encéphales qui aient bien réussi, et un phénomène vivant pour ton âge n'est pas embarrassé de gagner ses 3 francs par jour. Attends voir que j'aille aider Monsieur Daniel à se retourner. » Monsieur Daniel, c'était le lion invalide. Similor, à l'autre bout de la baraque, faisait trêve à sa leçon pour rentrer dans son rôle d'incorrigible séducteur. « Je possède des occasions favorables par-dessus les yeux, disait-il aux deux rougeaudes, mais ça m'est inférieur d'en attacher d'autres victimes à mon char dont la liste est si nombreuse. L'intérêt des deux amours comme vous est de fréquenter à leur début un jeune homme connu pour son truc et qui a ses entrées partout, même dans les sociétés chantantes. » Le second échantillon, disait Gondrequin à Madame Samaillou, est les animaux divers sortant de l'arche à la suite du déluge. Ça convient assez pour votre ménagerie, et je vous mettrai au milieu en costume de première dompteuse avec quelques seigneurs de la cour du Portugal. Ça ne vous va pas ? Emballé. Passons au troisième, qui est coupé en deux. À droite, le passage de la Bérésina, ou l'Efrimat de la Russie sous l'Empire. Hommage à la troupe française. À gauche, les enfants d'Édouard, immolés par l'usurpateur Cromwell, qui coupe également la tête à Anne de Boleyn, sa femme, et à l'infortunée Marie Stuart. Ça plaît parce que ça rappelle plusieurs succès à différents théâtres historiques. Ici, M. Baruch descendit de l'échelle et vint boire son verre de vin. En le déposant vide sur la table, il déclama d'une belle voix de basse-taille qu'il avait « Le voilà, ce poignard qui a du sang de son maître !»« Du bon poussier de motte pas cher !» cria aussitôt Peluche. Jupiter, dit Fleur de Lys, exécuta un roulement sur son tambour. Mademoiselle Colombe se précipita au centre de la salle en brandissant sa petite sœur qui jouait de la trompette. Les deux élèves de Similor arrivèrent en marchant sur les mains, et Gondrequin, militaire, toujours prêt à favoriser la gaieté, entonna à la Marseillaise. Il y eut alors un branle-bas général. La troupe Samaillou, occupée à des travaux d'intérieur, se mêla impétueusement au rapin de l'atelier cordacier et une gigue infernale souleva la poussière de la baraque. « 3 minutes de chauffage gymnastique !» hurlait M. Baruch, qui battait la semelle tout seul à cause de sa dignité. Gondrequin tapait à son tour des bras sur la grosse caisse et disait « L'artiste et le soldat est le même dans la fougue de son divertissement. Allume partout, chaud, chaud !» Du sein de la danse effrénée, les cris des divers animaux de la création, invités à miracle par les rapins de l'atelier cordacier, s'élevaient, formant un épouvantable concert. Similor criait dans le porte-voix, M. Baruch agitait sa cloche, Saladin effrayé poussait des vagissements, et M. Daniel, le lion vieillard, pris à la gorge par la poussière, avait une quinte de toux convulsive. Au milieu de cette allégresse folle, deux personnes restaient calmes. C'était Madame Samaillou, d'abord, dont rien ne pouvait guérir la mélancolie, et c'était ensuite Échalot, fort empêché à calmer son fils d'adoption et sa bête malade. « Halte !» commanda Gondrequin au bout de 3 minutes réglementaires. « On ne choisit pas sa vocation. Sans ça, j'aurai l'épaulette et la croix d'honneur. À la besogne et brossons comme des tigres après les vacances du plaisir. » Le calme se rétablit aussitôt, car il n'y a rien au monde de plus docile que ces pauvres grands-enfants, quand on sait les conduire. Monsieur Baruch remonta à son échelle, et le balayage des barbouilleurs reprit son cours. « Ah !» murmura Madame Samaillou, qui fit une grimace en achevant son verre. « Pour moi, la boisson a désormais goût de fiel, et c'est surtout quand les autres s'amusent que je ressens la blessure de mon âme ulcérée. » Il y a des moments où j'ai l'idée de partir pour l'Amérique, où les grands artistes français sont portés en triomphe par les sauvages. Mais la gloire elle-même d'avoir mon orgueil satisfait ne me remonterait pas le cœur. Voyons voir les tableaux. Après ça, répliqua Gondrequin, que je n'ai pas aussi ma peine d'avoir pourri dans le civil, quand l'uniforme était mon rêve. Fixe, je sais dompter mes regrets, imiter mon exemple. Voici une page bien intéressante où sont détaillés les tours de force et d'adresse. Auriol et sa spécialité, la suspension aérienne, la boule, les couteaux, le trapèze, la perche. La dompteuse mit sa tête entre ses mains et se prit à sangloter. « Maurice, balbutia-t-elle, Fleurette !» Gondrequin tourna la page vivement et grommela. « J'ai fait une boulette, c'est vrai que le petit était pour le trapèze et la bichette pour la suspension. Une, deux, demi-tour à droite, rafla, voici le massacre de la Saint-Barthélemy avec Charles IX, dont les veines de son sang lui sortent en vers rongeurs autour du corps pour prix de son crime. Et la mort de Coligny, célébrée par Voltaire. Voici la chèvre savante de Monsieur Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, accompagnée de Quasimodo et des tours de l'église, d'après nature, auprès desquels le travail la Esmeralda, restée pure malgré son commerce. Voici la pêche du crocodile dans les fleuves de l'Amazone, compliquée par le boa constrictor se nourrissant d'un mouton tout entier sans le mâcher, et l'enlèvement des petits d'une dégresse par l'orang-outan du Brésil de la Plata. Voici l'éruption du Vésuve à la lumière de la lune, et la mort de la famille du bandit ensevelie sous les laves, pendant que le pêcheur napolitain retire paisiblement ses filets en chantant la barcarolle. Le Janus moderne, où l'homme aux deux figures, l'une devant, l'autre derrière, avec la particularité qu'il est privé de nombril depuis le jour de sa naissance, et qu'on peut voir en perspective l'albinos buvant le sang du chat sauvage, le squelette vivant et l'oiseau à tête de bœuf. Il y avait longtemps que Madame Samaillou n'écoutait plus. Elle posa sa main sur l'album et dit « Assez, faites le tableau comme vous l'entendrez. » Et puis elle ajouta d'une voix sourde « Je ne sais pas si je me suis trompé, mais j'ai cru entendre prononcer le nom du juge Remy d'Arc et le mot « assassinat ».»« Parbleu !» fit Gondrequin, qui referma son album avec rancune. « C'est de l'histoire ancienne. Monsieur Baruch et les autres ne font que parler de cela depuis 2 heures d'horloge. » La dompteuse était pâle autant que le hâle rubicon de ses joues pouvait le permettre. Il y avait dans ses yeux un effroi farouche. « Je l'avais averti, murmura-t-elle entre ses dents serrées, plutôt 10 fois qu'une. » Elle essaya de boire, mais son verre fut reposé sur la table sans qu'elle y eût trempé ses lèvres. Gondrequin militaire, voyant qu'elle ne disait plus rien, rouvrit son album et voulut continuer le détail de ses échantillons, car il avait au plus haut degré la double conviction du commerçant et de l'artiste. Le contenu de son cahier graisseux était pour lui la plus utile et la plus mâle expression de la peinture au XIXe siècle. « J'ai idée, fit-il avec son gros rire content, que vous n'étiez pas bien proche parente avec monsieur le juge d'instruction, maman Léo. » Où en étions-nous? Le Janus moderne. Non, c'est fait. Voilà, un vrai tire-l'œil, tenez. La catastrophe du pont d'Angers, choisissant pour craquer l'instant où 2 bataillons du 67e y passaient dessus avec armes et bagages, musique en tête, tout le monde aux fenêtres, bateau à vapeur et surprise des passagers. La dompteuse le regarda d'un air si singulier qu'il resta bouche béante. « Il y a 2 heures qu'on parle de cela, dites-vous » prononça-t-elle avec effort. « Le juge Remy d'Arc a donc été assassiné ?»« Quant à cela, oui, maman, et voilà plus d'un mois qu'il est enterré. »« Par qui ?»« Eh, dame, par les pompes funèbres, je suppose. » Le visage de la veuve Samaillou devint écarlate, et ses yeux lancèrent des éclairs. « Par qui ? Assassiné ! » s'écria-t-elle d'une voix tremblante de colère. « Est-ce que tu vas te moquer de moi, vitrier de malheur ?» Le militaire devint plus rouge que la dompteuse, car entre gens sanguins, la colère gagne avec une rapidité folle. « Vitrier ! » répéta-t-il en fermant les poings. « Est-ce que nous avons gardé quelque chose ensemble, dis donc la mère ?» Mais il s'arrêta et porta sa main renversée à son front pour figurer le salut du troupier. Au beau milieu de son courroux, d'ailleurs légitime, l'idée qu'il allait perdre une bonne pratique avait surgi. « Respect au beau sexe, dit-il. Une invective tombant de la bouche d'une dame n'a pas les mêmes inconvénients que si elle avait été proférée par un interlocuteur de mon sexe. « Rompez les rangs, puisque vous n'êtes pas de bon poil, maman Léo. Je n'ai jamais porté l'uniforme, mais j'en ai la galanterie. À la vôtre tout de même. » Il vida son verre. Maman Samayou se laissa tomber la tête sur la main. « Assassineux, » dit-elle encore. « C'est donc ça qui vous chiffonne, » reprit Gondrequin, rendu à toute sa sérénité. « J'avais eu un petit moment l'idée d'en faire un tableau, mais ça n'a pas eu le retentissement nécessaire pour l'effet. Les détails manquent, et je ne sais pas pourquoi la chose n'a pas eu le succès qu'elle méritait dans Paris. Je lis mon journal tous les soirs, en prenant ma demi-tasse, et j'ai cru d'abord qu'on allait avoir du joli, car les faits divers avaient l'air de mélanger cette histoire-là à celle de Monsieur Labussière, Mélan et consort, connu sous le nom des habits noirs, mais l'arrêt est rendu maintenant dans l'affaire des habits noirs, qui doivent être partis pour leurs destinations respectives, et n'ayant plus fantaisie de profiter de la chose pour en faire un tire-l'œil. J'ai retourné à mes affaires. La commande tient toujours, pas vrai, maman ? La dompteuse fit un signe de tête affirmatif et pensa tout haut. « Comment savoir la vérité ? » « Il n'y a pas commère comme Monsieur Baruch, » répondit Gaudrequin en se rapprochant. « Les hirondelles de palais, ça vient quelquefois en foire, et le juge en question n'était pas à l'abri de courir la prétentaine, témoin l'endroit où on lui a fait avaler sa langue. Si vous êtes immiscé à son passé par hasard, interrogez Monsieur Baruch, et ce sera comme si vous aviez lu toutes les pièces qui sont au greffe. »« Monsieur Baruch, » appela Léocadie d'une voix faible. « Hola, hé, rue au poil !» appuya Gondrequin. « Obligeance à l'égard des dames, arrive ici !»« Ah, le voilà ce poignard !» répliqua M. Baruch, dit rue au poil, qui descendit aussitôt de son échelle et vint à l'ordre, son pinceau d'une main, son godet de l'autre. Aussitôt qu'il eut quitté les sommets d'où il surveillait le travail de ses subordonnés, l'activité de ceux-ci se ralentit comme par enchantement. « Voilà, » fit M. Baruch, « qu'est-ce qu'on me veut? Ne laissons pas sécher l'ouvrage. » Il s'interrompit pour ajouter, « Vous avez l'air toute tapée, maman Léo. »« Dites-moi tout ce que vous savez, » répliqua celle-ci, en faisant effort pour se redresser. « Ne me cachez rien, je vous en prie. » Et Gondrequin militaire, mettant les poings sur les i, exposa que la patronne voulait connaître à fond l'affaire Remy d'Arx. Monsieur Baruch jeta derrière lui ce regard qui savait compter les coups de pinceau donnés en une minute. « C'est que, objecta-t-il, tout va languir, et nous ne sommes pas ici pour nous amuser. »« C'est moi qui paye, » dit Léocadie presque rudement. « Arme à volonté, en avant-marche, » commanda militaire. « Moi, ça m'est égal, » dit Baruch, « roule ta bosse. Je crois que je connais assez bien cette histoire-là. » Il y a donc que M. Remy d'Arx était un jeune homme de bonne vie et mœurs, au commencement, et qu'on lui reprochait même dans son monde qu'il avait la timidité d'une demoiselle et pensionnaire. Mais pas du tout, les choses changent bien vite quand un quelqu'un a le malheur de faire des mauvaises connaissances. Et je vais vous dire tout de suite, moi, le fin mot du pourquoi que l'instruction ne marche pas. C'est qu'on a trouvé des indices drôles, tout à fait. Comme quoi, par exemple, le défunt juge d'instruction, qui dînait chez les ministres et fréquentait la meilleure société, avait nonobstant des accointances avec le gredin des gredins, Coyatier dit le marchef, qu'on n'a pas revu depuis ce temps-là, aux environs de la barrière d'Italie. Cherche. « Hein ? » fit ici Baruch en s'interrompant. « Que vous avais-je annoncé ? Je n'en ai pas encore raconté bien long, et les voilà tous qui font cercle, comme à la parade. » Les peintres, en effet, du côté de la Seine, et les saltimbanques des deux sexes, du fond de la salle, s'étaient rapprochés en même temps. Il n'y avait pour garder leur place que le lion valétudinaire et le jeune Saladin, qui s'étaient endormis entre les pattes du monstre, à force de pleurer. La dompteuse dit, ça m'est égal qu'on travaille ou qu'on travaille pas. Allez, droite, gauche, dit Gondrequin, pas accéléré. Il y a bien des gens, reprit M. Baruch, qui font semblant de voir plus loin que le bout de leur nez, et qui disent comme quoi que les habits noirs de la cour d'assises, M. Mac Labussière, M. Mélan et le baron de Castres, étaient des bandits de Ciliard, à côté des finauds de fera-t-il jour demain. « Mais quoi, cela, c'est comme le serpent de mer, tout le monde en parle, et personne ne les a jamais vus. Moi, j'ai mon idée, et elle a deux têtes, mon idée, comme le veau phénomène. Je me dis de deux choses l'une. Ou bien le juge Remidax était un habit noir. Oh, fit-on à la ronde. Le poing fermé de Madame Samaillou frappa la table pour imposer le silence. Il n'y a pas de « oh !» continua Monsieur Baruch. Pour qu'on ne les trouve jamais, ces lapins-là, il faut bien qu'ils soient protégés quelque part. Ou bien encore, et c'est la seconde tête de mon veau, le défunt qui passait pour un rude limier était tombé sur la piste de la bande. Ceux-là qui s'y connaissent disent que jamais chien n'est revenu de la chasse de ces sangliers-là. C'est sûr que Paris est bavard et qu'il y a des propos qui vont et qui viennent. J'étais tout moutard à l'atelier Cœur d'Acier la première fois que j'ai ouï parler de cet ogre qu'on appelle le père à tous, et on en parle encore, quoique ma barbe soit devenue grise. Je suis curieux, moi, j'ai guetté pour voir si l'ogre viendrait enfin devant la justice, et quand j'ai ouï parler pour la première fois de la bande des habits noirs, j'entends celle du mois dernier, je me suis dit à moi-même « Ma vieille, tu vas te payer le journal du soir 7 fois par semaine ». J'en ai fait la dépense, mais vas-y voir, c'était par trop ennuyeux, il y en avait parmi ces clampins-là qui ne manquaient pas du mot pour rire. Seulement, le père à tous et du fera-t-il jour demain, pas l'ombre, c'était un ramassis de filous ordinaires, et si j'étais à la place des vrais habits noirs, je les attaquerais en contrefaçon au tribunal de commerce. » Ici, Baruch, dit Rude au Poil, s'arrêta, trouvant son dernier mot joli et pensant avoir droit à quelques marques d'approbation. « Après, fit Madame Samaillou sèchement, vous ne me dites rien de ce que je veux savoir. »« Qu'est-ce que vous voulez savoir, maman Léo ?» demanda Monsieur Baruch un peu désappointé. « Je vous préviens que l'instruction a l'air de patauger pas mal et que le fin mot de l'histoire est encore tout au fond du poteau noir. » La dompteuse hésita avant de répondre. Elle avait les yeux baissés et ses lèvres blêmes frémissaient. Quand elle parla, enfin, chacun put remarquer la profonde altération de ses traits. « Il y a là-dedans une jeune fille, dit-elle, et un jeune homme. « Ah, ça !» s'écria Monsieur Baruch. « D'où sortez-vous donc, si vous en êtes encore là ?»« Je veux savoir, » prononça lentement la dompteuse au lieu de répondre, les noms du jeune homme et de la jeune fille qui sont accusés d'avoir assassiné le juge d'instruction Remidax. Le sentiment généralement éprouvé par l'assistance était une compassion assez vive pour l'ignorance inconcevable de maman Léo. Il n'est pas permis en effet d'ignorer certaines choses, et selon les couches sociales, ces choses qu'on n'a pas le droit d'ignorer changent. En haut, la chose est le plus souvent un vaudeville, dont les personnages sont invariablement Monsieur le Duc ou Monsieur le Comte, Madame la Comtesse ou Madame la Duchesse, outre Monsieur Arthur, qui peut avoir tous les noms de baptême du calendrier. Ce vaudeville est toujours le même, et toujours très amusant, à ce qu'il paraît, car son succès se prolonge sempiternellement. En bas, c'est un drame qui varie un peu plus que le vaudeville élégant, mais où il faut cependant un élément immuable, le sang. Au lieu de repasser la chronique de l'adultère enrichie de diamants qui fait les délices des grands, les petits radotent avec une fidélité pareille la chanson favorite du crime. Cela n'empêche pas la vertu d'être fort considérée chez nous, mais on n'en parle jamais. Ce qu'il faut savoir, sous peine d'excommunication, c'est, si on est du beau monde, la hauteur exacte du dernier saut périlleux de la princesse. Et si on est du pauvre monde, ce sont les détails circonstanciés du meurtre de la rue Page 20, de la rue Mauconseil ou de la rue Thévenot, avec le nombre des coups donnés, la nature de l'outil employé, la place des trous faits dans le corps, la largeur des ecchymoses et la posture que la victime gardait quand on l'a trouvée, déjà froide, les membres convulsionnés dans leur raideur, les cheveux hideusement brouillés, gluants et collés au carreau. Voilà quels sont nos appétits au XIXe siècle. À Paris, comme en province, les marchands de livres ne demandent plus aux jeunes écrivains s'ils ont du talent. Ils leur ordonnent tout uniment de rassasier le monstrueux idiotisme de cette gourmandise populaire. Monsieur Baruch avait demandé, dans son étonnement bien naturel, « Ah ça, d'où sortez-vous donc, maman Léo, si vous en êtes encore là ?» Et quoique la bonne femme fût une reine absolue dans sa masure, l'auditoire avait presque souri. Similor, l'homme au chapeau gris et aux cheveux jaunes, n'était pas seulement un type très réussi de Don Juan, il possédait, à l'état latent, l'étoffe d'un courtisan. La personne, dit-il, entre haut et bas, mais de manière à être entendue aux deux rougeaux de ses élèves, la personne n'a pas l'air, mais elle travaille de cabinet, comme quoi, quand des grandes idées pareilles à celles qui lui emplissent le cerveau se trémoussent dans une coloquinte, on ne peut pas faire attention à toutes les vulgarités journalières qui occupent la fainéantise de notre population. Échalot le regarda d'un air attendri et murmura: Ah, quelle dorure de langue! Ah, si j'avais son talent! Mais tout le monde ne peut pas jouir des mêmes facultés. Silence dans les rangs! Ordonna Gondrequin militaire. Madame Samaillou elle-même crut devoir une explication à l'étonnement de ses sujets. Le garçon dit vrai, murmura-t-elle, en accordant un geste approbateur à la flatterie de l'adroit Similor. Ma tête travaille, et ça fait mon malheur. Vous avez raison, vous aussi, monsieur Baruch, je reviens de loin, de trop loin. Ça semble aujourd'hui que je suis une étrangère au sein de ma patrie, puisque je ne sais rien de la nouvelle du moment que les plus naïfs paraissent en avoir connaissance. C'est comme ça, entendez-vous, je ne sais rien de rien, sinon que je viens de saisir à la volée, et je vais vous dire une chose. Si j'en avais su seulement depuis le temps, gros comme le bout du petit doigt, je saurais tout, car ça intéresse la tranquillité de mon existence. » Involontairement, le cercle se rapprocha, et l'on put entendre des voix qui chuchotaient. « Est-ce que la personne serait mélangée à ces affaires-là ? » « Commencez donc par le commencement, » reprit la dompteuse, en s'adressant toujours à M. Baruch. « Les noms !» Gondrequin militaire, qui était une bonne âme, lui prit la main, qu'il serra à tour de bras. « C'est l'instant, c'est le moment, » dit-il tout bas, « fixe, et tenez-vous ferme dans les rangs, maman. Je n'ignorais de rien, mais le cœur m'a manqué, quoi, et j'aime mieux que la commotion vous vienne de rude au poil. » On n'a jamais imprimé les noms tout au long du journal, reprit M. Baruch, qui bourrait sa pipe avec tranquillité. Dieu merci, on prend des gants dans ces affaires-là, parce que ça touche à des familles huppées. Le feu juge lui-même était ordinairement couché dans les feuilles publiques, en abrégé. La demoiselle à nom Valentine de V, connaissez-vous ça? Oui et non, répondit Léocadie, je n'ai jamais su le nom, mais la personne. Sa voix tremblait. Gondrequin lui serra la main en répétant « Fixe et du courage !» Pour le jeune homme, continua M. Baruch en s'asseyant sur la table, on met Maurice P. « Bien, » dit Mme Samaillou, qui se tenait immobile et droite. « Merci, M. Baruch. Oh, »« Vous êtes une fière femme !» murmura Gondrequin. « Et ici, poursuivit encore Baruch, que ce n'est pas bien malin de compléter le nom, puisque les journaux l'avaient imprimé tout entier à l'occasion du premier meurtre. » Cette fois, Madame Samaillou chancela sur son siège. « Le premier meurtre » balbutia-t-elle. Il y eut un mouvement dans l'auditoire, où quelques-uns crurent que l'ignorance de la dompteuse était jouée. « Le premier meurtre, » dit-elle d'une voix où il y avait des larmes. « Mes enfants, je vous ai menés à la baguette quelquefois, c'est vrai, mais le métier veut ça, vous savez bien. Ne vous vengez pas, je suis trop malheureuse. » Elle fut interrompue par un sanglot qui souleva brusquement sa poitrine. Les yeux de Gondrequin battaient par l'effort qu'il faisait pour ne point pleurer. Échalot, le pauvre diable, passait tour à tour ses deux manches sur les yeux baignés de larmes. Les autres étaient partagés entre l'émotion inattendue et la curiosité excitée violemment. Madame Samaillou avait croisé ses deux mains sur ses genoux. Elle parlait désormais pour elle-même et peut-être n'avait-elle plus conscience des phrases entrecoupées qui tombaient de ses lèvres. « Ça semble cocasse, » disait-elle de sa pauvre voix brisée, « mais c'est comme ça, que voulez-vous? Je ne lisais plus le journal depuis que le journal ne pouvait plus me parler de lui. » Ah, du temps qu'il était dans l'Algérie, le journal apportait tous les jours quelque chose de bon. Il aurait fait un héros, ce cher enfant-là, sans l'amour qui le tenait. Alors, comme le journal était muet, car toutes les autres choses et rien, c'est tout de même pour moi, j'avais défendu de l'acheter. C'est de l'eau que je voudrais, une goutte d'eau. Mais c'était l'eau qui manquait dans la baraque. Une des jeunes filles alla en chercher un verre à la fontaine de la rue Saint-Denis. Madame Samaillou poursuivait. Vous me direz qu'on n'a pas besoin de journaux pour apprendre, on cause avec celui-ci ou avec celle-là, n'est-ce pas? Eh bien moi, je ne causais plus, ça me faisait mal de causer. Rien que de voir les gens gais, j'étais plus triste. Et voilà comme ça s'est passé, tenez, je vais vous le dire. Il était revenu, je lui avais cuit son souper en riant et en pleurant. Le fricandeau, murmura Similor, dont les narines s'enflèrent. Et Chalot ajouta, « Ah, le petit Saladin avait grand soif ce soir-là. C'est elle qui nous donna de quoi remplir la bouteille. » « J'eus toute une bonne soirée, » continua Madame Samaillou. « Je pense bien que ce sera ma dernière bonne soirée. On bavarda. Ah, si vous saviez comme il l'aime. J'avais des pressentiments. C'est vrai, je lui disais, « Petit, prends garde. » Mais il était fou de joie, parce qu'il allait la revoir. Et le nom de ce Remi d'Arx... Elle s'arrêta, comme effrayée. Quand il fut parti, reprit-elle, la maison me sembla vide. Ils devaient venir tous les deux le lendemain, et un autre encore, mais personne ne vint, et j'en fus presque contente. Le jour d'après, je devais aller pour l'éloge. Au lieu de retarder le déménagement, je le pressais. J'avais besoin de fuir. Il me semblait que loin d'eux, je serais plus tranquille. J'avais peur, ah, c'est bien vrai ce que je vous dis là, j'avais peur d'entendre parler d'eux. Et pourtant, je cherchais à me rappeler mes prières que je disais du temps où j'étais jeune fille au pays de Saint-Brieuc. Et c'est ce que j'en pouvais rattraper dans ma mémoire. Je leur récitais les mains jointes pour leur bonheur. Elle trempa les lèvres dans le verre d'eau qu'on lui apportait. « Ah, voilà pourquoi je ne sais rien, mes pauvres enfants, » acheva-t-elle. « Et voilà comment j'ai besoin qu'on me dise tout. Ce qu'il y a de plus impossible au monde, voyez-vous, c'est que Maurice soit coupable. » Elle s'arrêta encore parce qu'un mouvement d'incrédulité avait agité l'auditoire. Ses yeux firent le tour du cercle où tous les regards étaient baissés. « Vous ne croyez pas cela, vous, » reprit-elle sans colère. « Les juges feront peut-être comme vous, et je suis une bien pauvre femme pour aller contre l'idée de tout le monde. Mais ça m'est égal. Contre l'idée de tout le monde, j'irai. Parlez maintenant, monsieur Baruch, si c'est un effet de votre complaisance, et ne craignez pas de me faire du mal. Rien ne peut me tuer désormais, puisque j'ai entendu ce que vous avez dit sans mourir. »